Roger Léger. Salut.
Allô.
Ça marche-tu, là?
Oui, ça marche.
Bon. Roger, Théâtre des Cascades, évidemment, oui. Tu es là tout l'été, tu es un des copropriétaires.
Oui, tout à fait.
Théâtre des Cascades, et là, c'est Zaza d'abord cette oui. année. Comment le choix de la pièce s'est fait? Parce que c'est une pièce québécoise, d'abord.
Oui, 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 c'est une pièce écrite par...
Sophie Clément, Marcel Leboeuf.
Marcel Leboeuf, exactement. Hey, t'as fait tes devoirs. Moi, j'hésite tout le temps quand j'y ai
pensé. Et Sophie Clément est très fière, d'ailleurs. Ah, moi, j'ai croisé Mme Clément il n'y a pas tellement longtemps, mais elle me disait qu'elle était très contente.
Ah oui, très heureuse.
Rejouer.
Ben, ce qui est arrivé, c'est que, bon, j'ai rencontré Michel-Maxime Legault, qui est un metteur en scène quand même assez reconnu maintenant, de plus en plus. C'est un jeune metteur en scène qui a beaucoup de talent. Et je suis allé voir une de ses pièces, puis il était venu nous voir l'été passé aussi au théâtre. Puis c'est un petit gars de Saint-Polycarpe à côté de Vaudreuil, puis dans ce coin. Il vient de là, lui.
Cascades, ça fait partie de ses souvenirs à lui.
Ben oui, c'est ça, ses souvenirs d'enfance. Il se souvient d'avoir vu la pièce, Zaza d'abord, avait été jouée à la télé. Puis lui, en plus, il venait souvent au Théâtre des Cascades. Il y avait le Pont Château à l'époque de Yvan Canuel, qui était pas loin. Puis il allait avec ses parents au théâtre. Puis c'est comme ça qu'il s'est intéressé au théâtre. Puis quand j'y ai parlé de venir à Cascades, si ça l'intéressait de faire la mise en scène, il m'a tout de suite parlé de cette pièce-là, que je connaissais, mais que j'avais pas lu. Puis ça, on s'est mis à lire ça. On fait, ben oui, c'était intéressant. C'est vraiment une comédie qui s'adresse à tout le monde. C'est plein de fantaisie, c'est plein de folie. Puis en même temps, François Lécuyer, qui est copropriétaire avec moi, devait jouer avec moi, mais là, il y a eu l'offre
d'un choriste.
Ben oui, de jouer d'un choriste. Fait que là, on a fait, regarde, tu peux pas refuser une offre comme ça, c'est un rôle extraordinaire, puis tout ça. Fait que il est allé, puis là, on a pensé à José Deschênes. On s'est dit, pourquoi c'est un génie, le personnage? Un génie ou une génie?
Ça change rien.
Change rien à l'histoire. On l'a relu comme il faut, puis on s'est dit, ben non, ça se peut. Puis José, elle m'avait déjà dit, l'année passée, elle a fait la mise en scène. Elle a joué il y a 2 ans, puis elle m'a dit encore cet hiver, à l'automne passé, elle m'a dit, tu sais, s'il y a quelque chose l'été prochain, moi, ça me tente, j'aime ça, Cascade.
OK.
Fait que c'est comme ça que ça a parti, par l'idée de Michel Maxime, avec José, tout ça. On fait beaucoup, beaucoup de lectures, on fait beaucoup de recherches de pièces. Quand quelqu'un t'amène une pièce comme ça, puis tu fais, comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à ça, là? Ben, tu fais, OK, parfait, allons-y.
Tu joues Octave Chanteclair, ouais. Un baryton.
Oui, un chanteur d'opéra.
Tu chantes, toi, dans la vie. Tu as fait beaucoup de spectacles avec la gang de l'Auberge, des spectacles pour la Guignolée avec Vincent dans le temps.
Oui.
Est-ce qu'il a fallu travailler ça, ce côté-là? Un baryton,
C'est pas
peu, à moins qu'il ne chante pas dans le show.
Pop, mais... là, c'est pas
non, c'est ça.
Ben oui, il a fallu que je travaille depuis janvier, en fait, depuis décembre, que j'ai suivi des cours avec Catherine Pinard, qui était une femme formidable, qui enseigne le chant, la musique, etc. Et qui est autant pop que classique, en fait, qui a une grande formation et tout ça. C'est une femme avec qui j'avais suivi des cours il y a 25 ans. Puis là, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, regarde, ce serait le fun que je reprenne. Là, j'ai pris un break, mais...
un long break.
Oui. Je suis allé la voir, puis là, on a eu du plaisir. On travaille, mais en même temps, c'est un chanteur d'opéra, on s'entend, mais c'est une pièce de théâtre.
Hein? Oui, il chante pas tout le long.
Non, puis c'est ça. Puis j'ai un classique à vraiment interpréter classique, mais ce qu'on fait, c'est qu'on donne une parodie d'un chanteur d'opéra. J'ai tous les tics des chanteurs d'opéra, j'ai toutes les manières, les foulards, les petites chorégraphies, etc., les roulements de R, et puis tout ça. C'est très drôle à faire, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir.
Parle-nous de l'histoire un peu.
Ah ben, c'est l'histoire de ce baryton-là qui revient à la maison après une année de tournée avec sa fille Zaza, qui l'accompagne, qui est son accompagnatrice au piano pour le faire répéter, etc. Et elle en a marre des tournées. Puis lui, ben, il a rencontré à New York un grand maestro russe, puis il l'a invité à la maison parce qu'il veut chanter ici que l'opéra de Moscou monte Carmen l'année suivante. Et il va absolument chanter Escamillo, le grand rôle de baryton que tous les barytons veulent chanter. Il veut le chanter à Moscou. Et là, c'est l'occasion rêvée de réaliser son rêve. Et puis, il invite le maestro chez lui. Mais entre-temps, la maison est gardée par un jeune homme qui a fait le party pas mal chez eux tout ce temps-là. Et là, il arrive à l'improviste. Le jeune homme s'en attend pas du tout. Et là, le jeune homme tombe en amour avec Zaza.
Okay.
C'est une histoire d'amour au travers de ça. Puis, évidemment, comme j'ai voyagé à travers le monde, je ramène des souvenirs. J'ai ramené une espèce de vase de la vallée du Nil, comme je dis toujours. pièce de parler du Nil. Et ce vase-là contient un génie. Mon fameux concierge, jeune concierge, va nettoyer le vase. Évidemment, le génie va apparaître, prêt à réaliser tous ses rêves. Et lui, c'est l'amour de Zaza qu'il veut. Mais le maestro va arriver entre-temps. Lui aussi est amoureux de Zaza. Et là, ça va être la guerre ouverte entre les deux.
Donc, il y a un quiproquo digne d'un théâtre d'été.
Ah oui, tout à fait.
Mais il y a un génie là-dedans. Il y a de la magie. Donc, c'est quelque chose qui n'arrive pas, généralement.
Il y a des moments totalement loufoques. Écoute, c'est un show qui demande énormément de technique. Il y a beaucoup d'effets d'éclairage, de sons, de fumée, de toutes sortes d'affaires. Il y a un peu de magie au travers. Alors, c'est très le fun à jouer. Puis c'est une pièce qui... Écoute, les enfants de 5 ans, ils trippent. Puis les gens de l'âge d'or trippent. Tout le monde a du fun, des gens de mon âge, des gens plus jeunes. Mais bon, je suis quasiment dans l'âge d'or. Mais en tout cas, mais les jeunes couples, ils viennent voir ça et ont un plaisir fou. Ouais.
Et là, c'est commencé.
Oui.
C'est là qu'on a hâte, nous, comme acteurs, j'imagine, et comme propriétaires du théâtre
ben,
aussi.
Oui, c'est là
de voir, d'entendre les rires. Là.
Ben, c'est ma récompense.
Parce que nous, on la trouve drôle à la lecture. Ouais. Plus les répètes avancent, moins on la trouve drôle parce qu'on l'a entendue plein de fois. Puis plus on doute aussi, plus on le répète.
Mais cette pièce-là...
Mais c'est les premiers rires qu'on...
Étonnamment, cette pièce-là, j'ai jamais douté. Tout le temps qu'on a répété, j'ai fait c'est une pièce qui marchait. C'est ça. C'est tellement bien écrit. Mais c'est bien... C'est une pièce qui a été jouée aussi. Hein. Il y a quand même 20 ans.
Qui a fait ses preuves.
Qui a fait ses preuves. Puis qui a été réécrite et retravaillée. Alors, tu sens que tout est là. Tu sais, tout est solide dans la pièce. Fait que t'as pas à te poser de questions tant que ça. Puis la gang, on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir en répétition. Mais c'est sûr que moi, comme producteur, puis comme parce que, tu sais, on se cachera pas, un théâtre d'été, c'est beaucoup de travail, ça commence à la fin de l'été précédent, pendant l'été, puis ça dure toute l'année, puis il faut mettre beaucoup de jus de bras, là, je fais beaucoup, beaucoup de tâches connexes, si on veut.
Qui n'ont rien à voir avec le métier d'acteur.
Qui n'ont rien à voir, bien, plus ou moins, tu sais, organiser toute la publicité, concevoir des pubs télé, des pubs radio, etc., les réaliser, s'arranger pour que tout fonctionne, tu sais, c'est beaucoup de job. Fait que quand t'arrives le moment de jouer, je fais « Ah, là, je fais ma job. Là, je fais vraiment mon métier. » Puis ça, c'est une récompense.
Mais arrives-tu à laisser le producteur dans la loge?
Oui. À partir du moment où je suis dans la loge, justement, je suis plus... Mais j'ai encore... Non, j'ai encore, c'est pas vrai, parce que quand il y a un problème, c'est moi qu'on vient voir.
Oui.
Puis comme je suis à peu près... Je suis le seul producteur sur le site, mais le seul...
Qui joue dans la pièce. Oh,
qui joue dans la pièce. Bon, on vient me voir aussi s'il y a un problème au camping, s'il y a un problème à salle à manger. On fait, bon, peux-tu communiquer avec les bonnes personnes, etc. Ou régler un problème. Des fois, j'ai toujours mon coffre à outils dans le coffre d'auto. Et j'ai une porte qui se défait. Ben,
c'est toi qui l'arrange?
Ah oui, je sors le tournevis. Ben, oui.
Et il y a tout le travail sur le terrain à faire avant l'ouverture de l'été. J'imagine que tu es là-dessus aussi.
Bien, ça, on a des employés.
Oui, tout à fait. Mais vous gérez ça quand même.
On gère tout ça aussi. Ouais.
Et là, vous en avez pour tout l'été?
Tout l'été, oui, jusqu'à la fin août. On a rajouté des supplémentaires cette semaine jusqu'au 25 août, je pense. Ouais.
Donc, c'est positif. Quand on rajoute des supplémentaires, ça veut dire que ça va très bien.
Ça marche. Les ventes sont très, très bonnes. Le public est vraiment très enthousiaste. Beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis là, ben, avec la canicule qu'on a eue, on dit que ça a réveillé les gens. Ils font « Hey, c'est l'été, là, on s'en va au théâtre d'été. » Puis ils viennent tous à... On a rebaptisé Pointe des Cascades de Punta del Cascades. Parce que
il fait chaud.
Ah, il fait chaud. Il fait chaud, fait qu'on pense ouvrir un resort.
Mais c'est sur le bord de l'eau, en plus.
En plus, écoutez, Playa del Cascades.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens du camping qui vont voir la pièce?
Oui, parce qu'ils ont un prix, d'abord.
Ouais.
Les gens, ils peuvent venir, par exemple, avec leur caravane ou avec leur roulotte une nuit, puis ils ont un prix pour... ils ont un prix spécial pour voir la pièce aussi en même temps.
OK. Alors,
c'est intéressant pour les gens qui passent, qui viennent passer une nuit, deux nuits, une fin de semaine. Ben, ils peuvent, il y a des permanents qu'on appelle, là, nos snowbirds.
Les fidèles.
Les fidèles qui s'installent à partir du mois de mai puis qui repartent à mi-octobre. Mais il y a une grande partie qui vient juste de passage. Puis ces gens-là viennent voir la pièce, oui.
Et il y a un prix pour les jeunes, non? J'ai vu ça sur votre site
internet. En bas de 10 ans, tout est gratuit.
Okay.
Les enfants de 10 ans et moins, le repas est gratuit, le spectacle est gratuit. Ils réservent leur place comme des adultes.
Oui,
siège. Là. À partir de 10 ans, il y a un prix spécial jusqu'à 17 ans. De 17 et moins, c'est un prix découverte qu'on appelle.
Mais ça, c'est une une excellente idée. Ben parce oui. que surtout on veut renouveler le public du théâtre. Ben,
notre idée, c'est ça, c'est de former un nouveau public à ce genre de théâtre-là aussi, parce que c'est de la comédie. Il n'y en a pas tant que ça qui se fait de la comédie de ce niveau-là.
Non, c'est vrai. Et puis dans les théâtres institutionnels, c'est souvent des drames.
C'est souvent des drames ou des comédies un petit peu plus...
D'époque.
D'époque ou un petit peu plus, je te dirais, ironique, où on tombe dans l'humour noir.
Oh, ouais.
Nous autres, c'est vraiment la comédie légère, des comédies de situation, avec des souvent, nous, on tombe jamais dans la vulgarité dans nos pièces. Alors, puis plein de surprises, plein de... Tu sais, il y a le vaudeville, c'est un peu l'inspiration du vaudeville. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des personnages amusants. Les enfants, avec un génie en plus, là, les
enfants capotent.
Il y en a qui sont venus nous voir après, on sort, puis ils viennent voir où est-ce qu'est le génie, puis ils veulent voir le chapeau, on lui met le chapeau sur la tête du génie. Ils ont du fun.
Roger, non seulement tu es très occupé avec le théâtre, mais tu es très occupé avec la télé.
Oui,
aussi.
Oui.
Tu n'es pas de fait divers la deuxième saison?
Oui, tout à fait. Oui, j'ai fini ça. J'ai déjà fini de tourner, moi. Mais j'ai tourné plus mai-juin. Là.
Qui tu vas faire dans cette nouvelle saison? Parce qu'il y a une nouvelle gang de bandits. Es-tu là-dedans?
Ouais.
Ben, méchant?
Oui, je suis un méchant. Mais je peux pas vous vendre les punch. Je suis pas là longtemps, c'est ce que je peux vous dire. Très intense, mais pas longtemps.
Mais c'est comment embarquer
manquez dans pas ce... le premier épisode. Il y a de l'action.
C'est comment embarquer dans ce show-là, avec cette gang-là?
C'est des intrigues complètement folles. C'est tout ce que tu pensais qui arriverait pas arrive là. C'est ça. C'est exactement ça. Tu arrives là, puis l'intrigue, ça va toujours de mal en pis. C'est toujours... Ça commence, on l'a vu l'année passée avec la première année, là, ça déboule, là, c'est une roue. Ah, là, ils font les mauvais moves. Tout le monde fait le mauvais move, puis là, tout à
coup... Ça s'enfonce tout le temps.
C'est un engrenage terrible. Ben, c'est ce qui arrive dans cette série-là. Mon personnage est un peu le départ de cet engrenage-là. Okay. Il y a une gaffe qui se fait par rapport à mon personnage.
Okay.
Puis après ça... Ça déboule. Tu te rends la série, là, tu fais « Ah, mon Dieu! » Mais il se cale tout le temps.
Et on va te voir à la télé, parce que là, on l'a vu sur la web, mais à la télé, Demain des Hommes va prendre l'affiche à l'automne. Une série qui a obtenu de super belles réactions. Toi, tu fais le propriétaire de l'équipe de hockey, marié à Maïe Paiement.
Oui, exactement. Avec une jeune fille qui a eu d'un premier mariage, on suppose. Là.
Comment il est ton personnage là-dedans, pour ceux qui n'ont pas vu encore la série sur
TV? Qui aime sincèrement. C'est un homme d'affaires. Un peu... il n'a pas une grande éducation. Là,
okay.
Mais correct. Il se débrouille, il connaît les chiffres. Il sait c'est quoi de la business. Là. Il y a un gros concessionnaire automobile. Puis, il y a deux, trois affaires. C'est une ville, on pourrait dire, c'est comme ça, réel ici.
Okay.
C'est une ville genre comme ça, on la situe... à hauteur de Mont-Laurier, c'est une ville imaginaire. Ça s'appelle Montferrand, en l'honneur à Gilles Vigneault, d'ailleurs, parce que c'est son fils qui l'écrit. La ville s'appelle Montferrand. Mais c'est une ville qu'on pourrait imaginer comme ça, avec une équipe de hockey dont ils sont extrêmement fiers, puis qui se soutiennent, puis que tout le monde vit pour l'équipe de hockey. Puis moi, je fais le propriétaire, qui est un peu directeur général, puis qui est très impliqué au niveau du hockey.
Okay.
Il y a d'autres actionnaires qui sont juste là pour... Ils veulent ça marche, mais tu sais...
Mais c'est pas la pièce. Ils sont là pour la paye.
Puis ils sont toujours en train de checker si on dépense trop, puis ils donnent leur opinion, mais ils connaissent pas grand-chose au hockey, dans le fond. Tu sais, c'est comme des coachs de d'estrade, là, tu sais.
Oh, oui.
Tandis que lui, il est plus impliqué dans le hockey, puis avec son coach, qui est joué par Normand Damour, il y a le vieux coach, puis il y a Émile Procloutier, qui joue le jeune coach qu'on vient d'engager, qui est un peu... C'est un peu le gars qui... Il arrive du Nunavut. Il a coaché des jeunes du
Nord du
Québec. Fait que t'imagines, là, tu vois le lien. Alors c'est un gars qui est quand même très humain, qui arrive là dans ce monde-là où c'est quand même rough. Puis c'est des petits jeunes qu'il faut tenir serrés. Ils ont 18, 19, 20 ans. Là. Il faut les
surveiller
c'est
un peu
ça,
plus.
Des fois, il y a des fauteurs de troubles dans le groupe, puis tout ça. Mais en même temps, c'est une série très humaine, très près des jeunes qui sont dans ces clubs-là, puis tout ce qu'on leur demande, la pression qu'ils ont, en même temps, leur rêve autre aussi que le hockey. Il n'y a pas juste le hockey dans
non, c'est vrai.
Il y en a un qui, par exemple, il y a 20 ans, puis il y a un enfant, tu sais.
OK.
Puis d'autres qui sont avec des familles qui ont beaucoup qui arrivent, par exemple, d'autres lieux. Ils vivent dans des familles d'accueil. Ça se passe pas toujours bien dans les familles d'accueil. Ça peut être des gens qui viennent aussi de milieux... Il y a toutes sortes de classes sociales dans un club de hockey, on oublie ça. Mais tu sais, il y a des gens qui viennent de la campagne, des enfants d'agriculteurs, puis tout à coup, tu as un fils de médecin qui est dans ce même club-là. Ils n'ont pas vécu les mêmes réalités, tu sais.
Et ça crée des conflits.
Ça peut créer des alliances aussi, ça peut créer toutes sortes de choses, en fait, bien intéressantes.
Donc, c'est pas une série sur le hockey?
Oui, c'est une série sur...
Est-ce que le hockey est en toile de fond?
Le hockey est en toile de fond, il est quand même très, très présent parce que c'est la chose
qui les unit,
puis qui unit toute cette ville-là aussi quelque part. Tu sais, quand on a vu, par exemple, dans l'Ouest canadien, il y a eu un accident d'autobus.
Oui, avec les Broncos de Humboldt.
C'est ça,
ouais.
Bon. Tu sais, tu penses à ça. Là, pour la ville, c'est un drame énorme.
C'est les enfants de ce village-là.
Exactement, ouais. De ce village-là, mais de la région, puis de la province. Puis c'est un peu ça l'idée de cette série-là, c'est ces jeunes-là, les gens de la région sont très attachés à leur équipe et à leurs ouais, jeunes qui sont là. Puis c'est sûr, c'est pour eux autres, c'est comme les Canadiens de Montréal, là, tu sais, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis tout est analysé par la radio locale, qui est probablement CJSO.
Probablement.
Ça ne s'appelle pas comme ça, mais il y a un animateur de radio qui commente les matchs, puis qui s'emporte, puis il y a des lignes ouvertes avec les gens de la région. Puis tu sais, c'est Jean-Charles Lajoie et
oui,
tout ça.
Okay. Ben,
c'est très
donc
drôle.
un vrai animateur de sport,
tu sais, qui est là. Ah, c'est très drôle aussi, parce que là, tu as tous les gens qui appellent. Ben, hey, tel, là, faudrait l'envoyer. une poignée de change, puis on l'envoie, puis tous ces commentaires-là, c'est très drôle.
C'est comment jouer les textes de Guillaume Vigneault? Parce que là, il a fait beaucoup de télé,
Fait surtout du cinéma, ouais. En fait. Il est très précis, ses textes sont très précis, en fait. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à transformer, je veux dire. Le texte arrive, puis c'est ça que tu as.
Okay.
C'est ça que tu dis, c'est écrit pour être parlé. Souvent, c'est pas... Tu sais, sans enlever le travail qu'il y a derrière, par exemple, d'écriture de téléroman. L'écriture de téléroman, c'était plus à long terme. Alors, souvent, on va recevoir le texte, puis le texte est très bon, mais on va pouvoir changer quelques mots parce qu'il n'est pas écrit pour être vraiment dit par mon personnage, par exemple.
Okay.
Je vais peut-être changer quelques mots pour le rendre... Mais là, il est vraiment écrit, je reçois, puis je fais « OK, c'est mon personnage, il est dans le texte. » Il est
okay. Donc, c'est ça, c'est déjà écrit en pensant à ton personnage.
Exactement, c'est bien, c'est très précis. Son écriture est très précise.
Et cet été, tu as un break des pays d'en haut.
Oui, oui.
Parce que ça ne sera pas tourné en été pour la première fois. Est-ce que ça se peut? Ça.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas à l'époque s'il y avait tourné d'hiver. Hein. Je pense que oui.
Vous allez tourner autant d'hiver.
Ben c'est ça.
Pour diffusion en janvier. Donc, il y a une équipe technique qui va avoir intérêt à se grouiller.
Ça va grouiller, là. Mais c'est sûr que de la façon que c'est fait, les premiers épisodes se passent l'automne, jusqu'à l'épisode 7.
Donc, on va pouvoir monter ces épisodes-là tout de suite.
Ils vont pouvoir les présenter. Puis, les deux derniers épisodes, c'est sûr qu'ils vont avoir des scènes de studio. C'est des épisodes qui se passent vraiment l'hiver. Mais tout le reste se passe l'automne. On va voir l'évolution de la saison, les feuilles rouges, etc. Parce qu'on tourne en extérieur à partir d'octobre jusqu'à la mi-novembre.
Okay.
Puis après ça, on tourne probablement début janvier, deux semaines là, d'extérieur vraiment hiver, avec des scènes d'hiver.
Les chevaux l'hiver, tout ça.
Les chevaux l'hiver. Bien, c'est sûr que les scènes à l'intérieur des maisons vont avoir été tournées en septembre.
Oui, c'est
là,
sûr.
On va faire comme si on arrivait de dehors. Puis
on va des manteaux sur le dos.
C'est ça, on va secouer les bottes. Des patates chérifs, là. J'ai hâte de voir.
Mais c'est comment, j'imagine qu'on vous l'a dit d'avance, parce que vous étiez habitués, vous autres, à garder l'horaire pour l'été. Toi, tu planifiais tout en disant, mais je tourne l'été.
On l'a su l'été passé, en fait, à la fin de l'été.
Parce qu'il faut que tout le monde soit disponible aussi.
À la fin du tournage l'année passée, ils nous ont annoncé qu'il allait faire un tournage hiver l'année suivante. Alors, de prévoir ça dans nos horaires. Puis ça nous donnait l'été pour aussi faire d'autres choses.
Bien sûr, parce que les tournages sont l'été, très souvent.
Ça. Oui, beaucoup, beaucoup. Parce que, justement, tourner l'hiver, tourner l'automne... L'automne, il y a des tournages aussi, mais un peu moins. Mais l'hiver, il n'y a personne qui tourne, ou à peu près, sauf demain des hommes, où on a tourné l'hiver. Puis
ça fait des glaces, puis ça.
C'est ça, puis ça se passe sur une vraie saison. Hein.
Okay.
Donc, on a commencé... Ah, tu vois, je mélange les deux, là, mais peu importe. On a commencé de mettre des hommes, genre au mois de fin novembre. Puis c'est comme une vraie saison de hockey. Fait qu'on a arrêté en plein milieu de la première saison. La première année finit en plein milieu de la première saison. Fait que t'es rendu en janvier, genre. T'es rendu en janvier quand la série finit. Fait qu'on a fait des zones dehors avec de la neige, puis il faisait frette. Il faisait frette en tabarouette. Puis là, ça va être pareil. Puis tourner dehors, c'est... Nous autres, en plus, on tourne à Rawdon sur un... un plateau de tournage où il n'y a pas de, ben, y a de l'électricité, mais c'est-à-dire que c'est des vieilles maisons pour chauffer, tout ça. Là, il faut emmener du chauffage. Il faut que tout le monde soit à l'aise. L'équipe technique, les acteurs, il faut les garder au chaud. L'été, c'est pas un problème. Tu as des petites roulottes, puis bon, tu t'arranges. T'sais. Mais l'hiver, il faut tout chauffer ça. Ça prend... Ils calculent que ça coûte un tiers de plus tourner l'hiver. C'est un tiers du budget de plus. Alors, si, mettons, c'est 300 000, là, c'est 400 000 tournées.
La raison pour laquelle ils ne tournent pas l'hiver.
Exactement.
Et les déplacements sont plus compliqués pour tout le monde. Un jour de tempête, on ne peut pas faire déplacer toute l'équipe l'hiver quand il y a tempête.
Si tu arrives au mois de janvier et il n'y a pas de neige, il faut que tu en souffles. Moi, j'ai vu ça.
Il faut que tu inventes la neige.
Ils inventent de la neige. Ils en créent. Ils mettent de la neige. Ils étendent de la neige partout. Puis, ils vont en chercher un camion. Puis ils t'en mettent. Puis là, ils ne peuvent pas tourner des grands paysages parce qu'il n'y a pas de neige.
Ben
un petit bout. Puis c'est très difficile de tourner l'hiver. Puis des fois, ça tombe. Là, il pleut. Tu sais, ils tournent des scènes de neige. Puis il pleut. Ou bien des fois, tu es à moins 30. Puis il faut que tu sois. C'était le début d'hiver. Puis tu es un petit manteau.
Oui, oui. Roger, l'année prochaine, ça va faire 35 ans la télé. Pour toi, avec le Parc des Brands.
Ah ouais.
Et à plein temps, la même année, en 84.
Oh my God! Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Hey, le Parc des Braves. Ah, c'était les mêmes années, ça. Oui, c'est vrai. À plein temps, je considère que c'est mon premier contrat télé, là. Mon vrai premier contrat télé. C'était ça. J'avais quoi, 24 ans?
C'était comment, ça, d'abord, cette expérience-là? C'est assez spécial. Tout le monde qui a joué là-dessus, à qui on en parle, disent que c'était assez spécial.
C'était spécial.
Parce que pour les plus jeunes qui ne connaissent pas plein temps, il y avait des marionnettes.
Oui, on jouait avec des marionnettes.
Qui étaient des acteurs. C'était des marionnettes.
Mon ex-femme était une marionnette. J'avais deux enfants marionnettes, moi. Ça commence bien une carrière, ça. Bon, on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait.
Oui, oui.
C'est ça qui était pratique. Puis, mais c'était mon premier contrat, là. Tu sais, j'étais tellement fier, là. Puis, c'était une belle expérience, quand même. Puis, c'est tous les jeunes qui commençaient, là, qui étaient là-dedans. Francis Redé, Suzanne Champagne, nomme-les, là. Claude Préjean était là-dedans. On était une méchante, belle gang d'acteurs. On avait du fun. On avait vraiment eu du fun à faire ça.
Et c'était comment pour toi les débuts à la télé? Parce qu'évidemment, c'est quand on veut être acteur, on espère éventuellement, il y a le théâtre, on espère éventuellement...
Mais on est bien rêveurs aussi. À cette époque-là, on se disait, ah, je vais être un grand acteur de théâtre, puis oh, si je fais de la télé, Mais c'est pas là que tu comprends la game. Puis moi, j'ai pas été vraiment comme ça. J'avais envie de faire de la télé, j'avais envie de faire du cinéma, j'avais envie de toucher à tout. Fait que je me suis retrouvé sur des plateaux de tournage, puis ça s'est toujours enchaîné. J'ai été très chanceux. Dans le fond, j'ai jamais arrêté de faire des théâtres de ma vie. Ouais.
Et 35 ans plus tard, c'est quoi le bilan qu'on fait de ça? On est chanceux, parce qu'évidemment, tu es toujours là, toujours appelé. On a parlé de plein de séries qui se fait là et ça va bien.
Pas que ça arrête, là, que ça soit la dernière année.
Mais tu as beaucoup de projets.
Oui, j'ai des beaux projets. J'ai des beaux personnages, des belles affaires.
Tu as eu des séries qui ont duré très longtemps. Évidemment, on pense à l'Auberge, mais il y a eu Anne-Cadieux, je pense.
Je pourrais regretter de certaines affaires. T'sais, par exemple, des fois, j'en parle avec ma mère. Je dis, moi, je suis. C'est drôle, là, j'ai jamais été la tête d'affiche d'un téléroman ou d'une télé.
Le premier rôle, OK.
Premier rôle, le titre, là, tu sais, comme Séraphin ou comme, tu sais pas. Je suis toujours un rôle de soutien, un second rôle, mais c'est toujours des rôles très intéressants, finalement. C'est la plupart du temps, c'est des rôles qui sont très marquants, qui sont le fun à jouer, puis qui t'identifient pas nécessairement complètement à la série. Fait que tu peux te permettre d'aller faire autre chose en même temps. Fait que j'ai toujours eu quelques séries, quelques téléramas en même temps, finalement.
Et t'as jamais été typecasté non plus? Il me semble que t'as fait de tout. T'as fait des gars moins gentils, des gars plus sympathiques.
Beaucoup de méchants. À un moment donné, je me disais, pas les bombes, là. Mais après ça, j'ai joué des bons gars. Après ça, je me suis promené. Là, je joue un bon médecin. En même temps, juste un gars-là de la mafia. Puis je fais un propriétaire d'équipe de hockey. Puis tu sais, ils sont très typés, très différemment. Fait que c'est le fun pour moi. C'est un défi à chaque fois, finalement.
On a parlé d'À plein temps. Tu as joué aussi dans Robin Stella cette année. Il y a Franche Chevrette qui nous a quittés.
Un ou deux petits épisodes.
Franche Chevrette travaillait sur À plein temps.
Ouais,
elle
aussi.
Était dans Robin Stella. Ça t'a fait quoi quand t'as
appelé? Ça m'a donné un choc parce qu'on s'est connus. Écoute, on a le même.
Vous commenciez?
On commençait. C'est une belle jeune fille. J'ai trouvé tellement belle, d'ailleurs.
Et qui a joué un gars.
Oui, puis qui a joué un gars après. Ben, toute petite, bonne femme. Puis elle était manipulatrice de
marionnettes dans le temps.
Puis après ça, elle est devenue un personnage dans Robin Stella. C'est une fille formidable, vraiment. C'est sûr, c'est un choc. C'est toujours un choc. C'est trop jeune pour partir.
Bien sûr. Et là, il y a, on a parlé des pays d'en haut tout à l'heure. Ton médecin, qu'est-ce qui va arriver dans le, là, tu le sais pas?
Je ne sais pas.
Tu n'as pas eu les textes encore?
Je vais recevoir les textes là, là, bientôt. Je sais que ma femme, on va avoir beaucoup de choses avec ma femme cette année.
Ben, c'était déjà bien parti.
Oui, mais l'année passée, j'étais plus... tout le monde faisait tirer, puis j'étais tout le temps en train de soigner quelqu'un, puis d'opérer quelqu'un. Puis, ça brassait, là. J'étais dans le Western l'année passée. Mais cette année, il semblerait, je ne sais pas encore, là, je vous dis ça de même, là, c'est peut-être, je vais être peut-être à côté de la traque complètement quand vous allez voir la
série. Oui. Et on t'a vu dans le district 31 aussi,
oui.
Avec Alexis Soria. Oui, c'est comment embarquer? D'abord, c'était des retrouvailles avec Gilda.
Oui, c'est ça, c'était drôle. Ça.
35 ans plus tard.
Ben, c'est ça.
C'est comment ce beat-là de quotidien pour toi?
C'est ben, une écoute, machine, moi, c'était pas difficile. J'étais un peu personnage extérieur. Hein.
Oui.
Je l'ai fait deux, trois scènes dans une série. Je suis venu résoudre quelques petites affaires, puis je suis reparti. Enfin, j'ai fait une dizaine d'épisodes. Puis j'étais pas là à tous les épisodes, non. Mais je voyais le travail qu'eux autres avaient se tapé, là. Puis, en fait, si tu fais ça, il faut vraiment que tu te consacres totalement à ça.
Que à ça, oui.
Je voyais Luc Picard, puis Gildard, puis tous les autres. C'est surtout Luc Picard et Gildard qui étaient dans toutes les scènes.
Ouais.
Gildard était là, mur à mur. Il reçoit ses textes le vendredi, le lundi, il tourne, tu sais, tu fais... Hey, tabarnouche, là.
T'as de faim, puis.
La ligne à
t'as pas le choix de travailler dans la fin de semaine.
C'est ça, mais quelque part, ça devient aussi. Tu connais tellement ton personnage, puis ça devient, je pense, une mécanique qui rentre en toi, qui est une façon d'apprendre des textes. Souvent, quand on fait. On a des rushs comme ça, là, tu sais. Ça m'est arrivé, moi, de remplacer des gens à pied levé au théâtre ou des choses comme ça. T'apprends le texte en deux jours. Mais on dirait que le corps te pousse à le faire, puis tu le
fais.
Tu le fais, ta mémoire est là, puis elle fait un job. T'sais, mais c'est sûr qu'il faut vraiment, par exemple, que tu t'appliques.
Roger, si on veut te voir cet été, c'est au Théâtre des Cascades.
Tout à fait, oui.
Tu joues ce soir?
Ah, je joue ce soir.
Et tu joues, c'est les fins de semaine?
Oui, mais on joue jeudi, vendredi, samedi. À partir de la semaine prochaine, on joue deux fois le samedi.
Donc, il y a une représentation dans l'après-midi?
À 6h30 et okay. À 9h. On a une demi-heure entre les deux, nous autres.
Est-ce que c'est du sport, ça?
Ah oui, c'est du sport. Bien, il y a deux soupers théâtre. Alors, il y a des gens qui arrivent à 4h30 pour souper. Ils viennent voir le show à 6h30. Puis, pendant ce temps-là, il y en a qui soupent entre 6h30 et 9h.
Pour voir le show après.
Le show de 9h, exactement.
Mais j'imagine que c'est très apprécié des gens, ces deux représentations-là.
Oui,
parce
oui,
qu'il y a
des gens
pour qui aiment ça, y aller tôt.
Ben, exactement, puis ils ont le reste
avec
de la soirée.
Avec les plus jeunes aussi.
Exactement, ils ont le reste de la soirée après pour rentrer à la maison tranquillement, aller se baigner, je sais.
Et là, François Lécuyer ne pouvait pas être là
non,
cette
c'est
année
ça.
Parce qu'il est dans les choristes. Est-ce qu'il a vu la pièce?
Oui, ben oui, il a adoré ça. Il a vraiment eu du fun, puis il était content. Il était très, très content.
Est-ce qu'il y avait, j'imagine, un petit pincement de ne pas pouvoir être dans l'aventure, mais
c'est sûr,
quand on se fait offrir un truc par Serge Deloncourt,
ouais.
C'est assez difficile de dire non.
Ben, c'est sûr, je le comprends tout à fait. Puis c'est un rôle taillé sur mesure pour lui. Fait que c'était parfait. Puis, il nous a emmené pas mal de champagne. Il y avait de quoi se faire pardonner, là.
Et Josée, ça fait plusieurs années que tu travailles avec elle.
Ça fait 3 ans d'affilée que Josée...
Plus la télé.
Plus la télé, exactement, oui.
C'est comment travailler avec Josée Deschamps?
D'abord, elle est formidable, elle est fine, elle est drôle. Puis elle est... C'est une fille extrêmement appliquée, qui travaille chaque chose. C'est jamais fini avec Josée. Josée, elle arrive avec des idées tout le temps pour son personnage. On pourrait essayer telle affaire, Elle est vraiment, c'est une perfectionniste. Puis ça, c'est le fun, parce que c'est très stimulant. Parce que c'est pas fatigant, là. C'est pas une têteuse fatigante. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours à cœur de faire mieux chaque soir. Ce qui fait qu'on reste toujours très focus dans ce qu'on fait, puis on fait de la belle job tout en s'amusant énormément.
Parle-moi des autres acteurs, on n'en a pas parlé.
Ah ben oui, Stéphane Breton, Stéphane qui
fait le maestro, j'imagine.
Qui fait le maestro tout à off, avec une espèce d'accent russe, sa voix très basse comme ça. Il est tellement bon, il est vraiment formidable, puis tu sais, il a une gueule tellement particulière.
Ah oui.
Puis tu sais, dans ce show-là, il a Joachim Tanguy, que les gens ne connaissent pas beaucoup, parce que c'est un gars qui a fait beaucoup de théâtre jeunesse, qui a joué avec le Parmi nous, entre autres, puis qui a une compagnie, le Théâtre Bluff à Laval, qui fait du théâtre d'adolescents.
OK.
Lui, il est directeur artistique de cette compagnie-là. Et il y a Marie-Ève Trudel, qui est une actrice qui a joué à peu près juste au théâtre, en fait, qui n'a pratiquement pas fait de télé, et qui est une superbe actrice, qui est vraiment très, très, très bonne.
Et qui fait donc Zaza.
Est-ce qu'il fait Zaza? Oui, avec sa grande. C'est une grande fille, toute mince, toute belle, puis c'est très drôle.
Et comment le choix des acteurs s'est fait? Est-ce que c'est Michel Maxime qui
a
fait?
Avec Michel Maxime. Moi, je connaissais pas Joachim. Je connaissais, mais il y a juste Joachim que je connaissais pas. Okay. Qui a vraiment une bouille formidable, puis c'est vraiment un très, très bon acteur. Je connaissais Marie-Ève, je connaissais Stéphane, évidemment, puis José. Ouais.
As-tu déjà commencé à penser à la pièce de l'an prochain ou c'est trop tôt?
On en parle déjà, oui.
Ah oui? Oui, est-ce que le choix est arrêté ou pas?
Non, il n'est pas arrêté encore, mais on travaille là-dessus. On commence déjà à lire des choses, à en discuter, à voir qu'est-ce qu'on peut faire l'année prochaine. Oui.
Qui décide au final? Est-ce que c'est les cinq actionnaires ensemble? Ou c'est...
Habituellement, c'est beaucoup François et moi qui cherchons les pièces. Ensuite, on les soumet. On soumet habituellement notre choix au reste des actionnaires, mais quand on est rendu là, c'est parce qu'on est pas mal décidé. Ça lui prend des très bons arguments pour nous.
Pour faire changer
ça
d'idée.
Ça marchera pas, ça. Si, par exemple, on arrive avec une pièce qui a 8 acteurs, là, ça se peut qu'on nous dise non, ça marchera pas, puis qu'on soit obligé de 10 acteurs parce qu'on n'a pas les moyens, c'est tout.
Roger, merci d'avoir été là.
Ça m'a fait plaisir.
Et j'invite les gens à aller voir Théâtre des Cascades, théâtredescascades.com pour exact. Tous les détails. On peut acheter les billets là-dessus, pas de problème.